Le miroir de Venise de Berthe Vadier. Chapitre 1er. Paris voyait le carnaval de 1760 toucher à sa fin. La folie agitait son sceptre de grelot avec d'autant plus d'animation qu'elle sentait venir le moment d'abdiquer en faveur de ce roi au teint pâle, aux yeux creux, qu'on appelle le carême, et qui fait si durement expier à ses sujets le bon temps qu'ils ont pris avant son règne. Il faisait un froid des plus vifs. La neige qui était tombée plusieurs jours de suite, comme pour préparer le linceul du pauvre carnaval, près d'expirer, avait formé sur le sol une couche épaisse et dure. Les communications étaient loin d'être faciles. Les chevaux ne tiraient qu'à grand-peine, les pesants équipages alors à la mode, et quant aux malheureux piétons, ils enfonçaient jusqu'aux genoux dans cette ouate réfrigérante dont l'hiver avait été si prodigue. C'était le soir, un beau soir si l'on veut. La lune brillait dans un ciel très clair, et on voyait ses rayons danser sur la neige comme de gais follets. Mais s'il était quelqu'un qu'on ne dût pu s'attendre à trouver en route par un temps pareil, c'était bien la déesse des fleurs, et cependant, le carnaval rend toute impossibilité possible, Flore en personne traversait les rues de Paris, non point il est vrai dans un char aérien entraîné par un bol de coucou et entouré par les zéphyrs, mais dans un lourd carrosse jaune, bien calfeutré, tiré par 4 forts chevaux et conduit par un gros cocher enfoncé dans une houe blonde fourrée. La reine du printemps revenait d'une fête de la cour et regagnait son petit hôtel situé au Marais. Le Marais, à cette époque, était encore assez à la mode pour servir d'asile à une divinité, mais il était déjà bien sombre et bien noir, et ce soir-là, il le paraissait davantage encore, entre ses toits poudrés à frimas et la nappe blanche étendue dans ses rues et dans ses cours. Cependant, pour avoir, même au Marais, une image du printemps avec tous ses charmes, la baguette d'un enchanteur n'eût pas été nécessaire. Il n'aurait fallu que traverser la cour de l'hôtel de Lude, monter l'escalier brodé de sculptures et pénétrer dans le boudoir de la comtesse Laure, c'était le nom terrestre de la déesse des fleurs. Là, point de cheminée, point de poêle, rien qui rappelât l'hiver. Des bouches de chaleur invisibles entretenaient une température égale et douce dans cette petite pièce, qui, toute tendue de satin de Chine rose pâle, ressemblait à l'écrin de quelques bijoux précieux. Un tapis de velours blanc semé de roses s'étendait moelleusement sous les pieds. Les meubles de formes indolentes étaient revêtus de ce même velours. Point de tableau, point de dorure, des fleurs naturelles encadraient les glaces et couvraient les consoles, et dans une cage en filigrane, des oiseaux rares, trompés par l'aspect riant de la chambre et les effluves chaudes et parfumées de l'atmosphère, chantaient l'amour et le printemps, le jour bien entendu, car l'heure où commence notre histoire, tous ces beaux musiciens dormaient la tête sous l'aile en dépit des bougies odorantes qui brûlaient sur la toilette. Seul oiseau éveillé de ce réduit coquet, une jeune fille de 15 à 16 ans, petite, mince, gracieuse, aux traits charmants et mutins, allait, venait, s'asseyait, se relevait, ouvrait un livre, le jetait loin d'elle, frappait le tapis tantôt de la pointe de sa mule de satin, tantôt du talon de cette même mule, s'approchait de la fenêtre, soulevait le rideau, s'efforçait de distinguer quelque chose dans la nuit, passait dans la chambre voisine pour regarder l'heure, car Madame de Lude, un peu brouillée avec le temps comme la plupart des dames, avait banni les pendules de son boudoir et donnait tous les signes de la plus vive impatience. « Ah, enfin » s'écria-t-elle en entendant le roulement d'un carrosse dans la cour. « Enfin, la voici !» Elle s'élança dans l'escalier et rentra au bout d'un instant avec une jeune femme brillante de grâce et de parure, à qui elle ressemblait comme une jolie miniature à un beau tableau. « Entre vite, ma belle Flore, et raconte-moi tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout. Je ne te raconterai rien, répondit la comtesse, et je te gronderai bien fort, méchante petite fille, ne t'avais-je pas défendu de m'attendre ? Oui, mais je ne suis pas obligée de t'obéir, si tu t'es ma mère ou ma grand-mère, à la bonne heure. « Comment, petite Claire, on ne doit pas obéissance à sa tante ?»« Non pas quand elle est jeune et belle comme toi. »« Vous verrez qu'il va falloir être vieille et laide pour être respectée de mademoiselle. »« Certainement, une jolie femme n'est pas imposante du tout. C'est une sœur, une amie, tout ce qu'on veut, excepté une tante. »« Voyons, ne nous chicanons pas. Tu sais bien que je n'obéis qu'à moi-même. Décris-moi vite la fête. Tu peux bien me donner ce dédommagement à moi qui ne vais pas à la cour et qui n'irai jamais. » ajouta-t-elle avec un soupir. J'espère pourtant, reprit la comtesse en souriant, que tu me permettras bien de me déshabiller avant de satisfaire ta curiosité. Appelle Louisette. Je l'ai envoyée dormir à ma place. Je t'aiderai aussi bien qu'elle, je pense. La jeune fille débarrassa la comtesse de ses fourrures, puis elle recula de deux pas. Oh, comme tu es belle! Laisse-moi t'admirer encore, toi et ton costume, car vous êtes aussi charmants l'un que l'autre. Est-ce la vérité? Demanda Flore. Me trouves-tu bien?
Je ne te trouve pas bien, mais adorable. Et d'abord, c'est mon intérêt. Ne dit-on pas que je te ressemble?
Et on dit bien. Nous sommes le portrait l'une de l'autre.
Oui, c'est vrai, continua-t-elle en jetant au miroir un coup d'œil complaisant. C'est vrai que je suis passable.
Madame de Lude était modeste dans son appréciation. Nous aurions été tout à fait de l'avis de Claire et nous aurions proclamé Flore adorable. Quant à son costume, passionné comme nous sommes maintenant pour la belle simplicité antique, il nous aurait paru d'un goût douteux. Mais alors, dans les pastorales qu'on jouait à la cour, comme dans les peintures de Boucher, les bergers gardaient leurs moutons en veste et souliers de satin, et les bergères se promenaient au bord des ruisseaux en robe de brocart, mêlant sans scrupule à leurs fleurs des pierreries à profusion. En vain le régent du Parnasse avait-il dit au siècle précédent qu'une bergère au plus beau jour de fête de superbes rubis ne charge point sa tête. Les gens qui applaudissaient les vers de Babette la Bouquetière, autrement dit l'abbé de Bernis, se gardaient bien de lire Boileau. La toilette de Madame de Lude se composait d'une première robe à longue traîne en satin vert pâle brochée de fleurs printanières aux douces nuances et traversée de lignes serpentines en argent pour représenter sans doute les ruisselets qui se promènent à travers Pré. La seconde jupe en damas rose s'étalait sur de vastes paniers drapés et retenus par des fleurs dans le calice desquelles brillaient, précieuses rosées, des perles et des diamants. Quant à la coiffure, conseillée par un jeune artiste capillaire plein de goût, qui fut plus tard le fameux Léonard, Laure de Lude avait osé faire une innovation qui s'était trouvée des plus heureuses. La poudre, qui en effet eut assez mal convenu à Flore, avait été mise de côté, et la jeune femme avait laissé flotter sur ses épaules ses magnifiques cheveux bruns mêlés à des fleurs. Une partie seulement se relevait en bandeau grec sous un très riche diadème. La comtesse avait, pour cette occasion, fait remonter toute sa parure, et c'était des églantines en diamant qui brillaient dans ses cheveux, à ses oreilles et à son corsage. Pour compléter le costume, une écharpe rose et argent passée en sautoir soutenait une élégante corbeille pleine de fleurs variées. Tout cet attirail magnifique ne laissait pas d'être incommode. « Voyons, dit Madame de Lude à sa nièce, tu m'as assez contemplée. Aide-moi vite à me débarrasser de tout cela. Il faut penser que je suis enfermée depuis 6 heures au moins dans ces splendeurs un peu lourdes et que je soupire après ma robe de chambre. » Claire remplit adroitement auprès de sa tante l'office de camériste, et lorsque Madame de Lude, enveloppée d'une douillette de satin, se fut enfoncée dans sa bergère, la jeune fille s'assit à ses pieds et, fixant sur elle de grands yeux interrogateurs, lui dit « Eh bien ?»«
Eh bien, » répondit la jeune tante, « c'était beau, tout à fait. Les costumes étaient admirables.
Le tien était le plus admirable, j'en suis sûr.
Je ne sais trop. Madame de Forlis, qui faisait l'aurore, était très belle, toute en gaze rose et en perles.
Mais elle n'est pas jolie.
Si, elle a de beaux yeux. Madame d'Estrel était superbe en nuit. Elle avait dans sa robe bleue je ne sais combien d'étoiles en diamant.
Faux, alors, puisqu'elle est ruinée.
Que tu es méchante, Claire. Vrai ou faux, les faits étaient des plus brillants.
Et la pastorale a-t-elle été bien jouée?
Pas mal du tout.
Raconte-la-moi un peu.
Ce serait trop long.
Qu'est-ce que ça fait? Je vois dans tes beaux yeux que tu n'as pas sommeil, et moi j'aurai bien le temps de dormir quand je serai au couvent.
Eh bien, la scène se passe dans le pays arrosé par le Lignon.
Le Lignon, je le connais. Me suis-je assez ennuyé à le côtoyer pendant les 10 tomes de l'Astrée?
Tu as lu l'Astrée, toi? Mais où?
Mais quand, je te prie?
En Touraine. L'année dernière, on trouve de telles nouveautés dans ton castel, et le matin, tandis que tu dors et qu'on est toute seule, on les lit faute de mieux. Mais revenons à la pastorale.
Le décor représente un très joli paysage.
Avec le Lignon au milieu?
Non, au fond. À droite est un village, composé de petites maisons très blanches, et à gauche un bosquet.
d'arbres taillés en bouquets, cela rime, je vois l'effet d'ici. Il y a d'abord clair de lune, et la nuit s'avance majestueusement. Elle dit qu'autrefois son règne était troublé par mille inquiétudes, mais qu'à présent, sous le règne d'un roi qui, d'un roi dont elle est tranquille. Précisément, il termine en disant, grâce à Louis, roi sans pareil, la nuit est paisible et les songes de leurs agréables mensonges bercent les heures du sommeil. Comme c'est joli, est-ce que le sommeil paraissait? En personne, avec une couronne de pavots, c'était monsieur de Constal. Impossible de mieux choisir. Il vous fait bâiller dès qu'il paraît et vous endort sitôt qu'il parle. Parlait-il dans la pastorale? Non, il passait seulement, personnage muet, accompagné de jolis enfants habillés de rose et de bleu et pourvus d'ailes qui représentaient les songes. Après cela, l'aurore, je suppose, ouvrait les portes de l'Orient. Tu supposes juste. Elle a dit de jolis couplets que je ne me rappelle pas. Le sens était qu'elle redoutait jadis de paraître à cause des malheureux qui gémissaient sur la terre, mais que sous le règne de Louis le bien-aimé, il n'y a plus que des heureux. Quel mensonge! Et moi donc, je suis heureuse peut-être? Mais oui, ma chère petite, tu es heureuse. Tu ne connaîtras pas les dangers du monde et ses désenchantements. Tu passeras tes jours dans une douce retraite ou... Oui, je voudrais bien t'y voir. Mais continue. Qu'y avait-il après l'aurore? Un ballet de bergers et de bergères pour célébrer leur tour du jour. Et ensuite, le premier acte finit là. Le second commençait par les fêtes de Flore, et touché de tout ce qu'on faisait pour m'honorer, j'arrivais, accompagné de monsieur de Cressonne, le zéphyr. Un zéphyr un peu lourd, ses ailes devaient avoir grand-peine à le porter. Du tout, c'était lui qui portait ses ailes. Je t'assure qu'il n'était pas mal. Soit. As-tu bien dit ton aria? De mon mieux. Le roi a daigné m'applaudir. Et toute la cour a fait comme le roi?
Sans doute.
Après? Après, le zéphyr se plaint de sa santé.
Comment cela?
Il raconte son origine. Il doit, dit-il, sa naissance au soupir d'amour, mais il n'y a plus d'amour, partant plus de soupir, en sorte qu'il languit chaque jour davantage et qu'il doit s'attendre, bientôt à finir, faute d'un cœur tendre, pour l'entretenir. Comme c'est touchant! Dit surtout par une bouche située entre deux grosses joues comme celle de monsieur de Cressonne. Est-ce qu'on lui rend le souffle à cet infortuné zéphyr?
Oui, ma chère, il se sent ranimé dès qu'il touche les bords du lignon, c'est que là,
il y a des cœurs tendres en profusion.
Il y a Daphnis et Coria, deux aimables bergers qui s'adorent et que la fortune sépare.
L'un est riche, l'autre est pauvre, comme monsieur de Chanzé et moi, et des parents barbares.
C'est cela. Coria ne possède qu'un mouton et les troupeaux de Daphnis couvrent tous les pâturages d'alentour, en sorte qu'ils fatiguent les échos de leurs lamentations.
Oui, mais à la fin, les immortels sont touchés de leur peine et de leur constance, et d'après l'ordre de Vénus, Pan et moi, nous avons donné à Coria des troupeaux et des prairies pour sa dot. Pendant que vous étiez en veine de générosité, n'auriez-vous pu me doter aussi pour m'empêcher d'aller au couvent et me faire épouser mon petit vicomte?
Pauvrette, si je le pouvais, tu n'aurais pas besoin de le demander.
Oui, je sais que tu es bonne. Mais voyons la fin de la pièce.
Tu peux la deviner.
On les marie et...
Ballet général.
En sorte que tout le monde est content. Pas tout à fait. Il y a une riche Chloé qui comptait sur Daphnis et qui est excessivement mortifiée.
Je le crois bien.
Qui était cette Chloé?
Madame de Béjac.
Comment? Madame de Béjac en était, cette vieille qui a au moins 60 ans?
Que dis-tu? Elle ne doit pas beaucoup dépasser les 40. Cependant, elle n'avait pas moins tort d'être là.
En bergère, elle est affreuse, cette pauvre femme. Elle n'a plus de dents, guère de cheveux et trop d'embonpoint.
Aussi, c'était une drôle de Chloé. Chaque fois qu'elle entrait en scène, il y avait dans la salle des rires que la politesse n'étouffait que très peu. Je crois bien qu'elle a compris, car la pièce était à peine achevée qu'elle a demandé sa voiture. Voilà pourtant des déboires qu'on s'éviterait si l'on savait se retirer du monde à temps.
Le mal est que les femmes qui ont été belles s'imaginent l'être toujours.
Elle était belle, cette grosse Béjac?
Très belle. Mais c'est de l'histoire ancienne. Si elle savait tout ce qu'on a dit après son départ,
a-t-on fait des gorges chaudes sur ses prétentions? S'est-on assez moqué d'elle?
Je me le reproche un peu, mais...
Tu as dit ton mot comme les autres?
Hélas, oui.
Quel gros péché!
Mais je pense qu'on a pourtant fait autre chose que de se moquer de madame de Béjac.
Sans doute. Sa Majesté a bien voulu témoigner aux artistes sa royale satisfaction. Elle a été en particulier fort gracieuse pour moi et m'a demandé la permission de prendre une fleur dans ma corbeille. Naturellement, ma belle petite tante a dit avec le plus séduisant de ses sourires qu'elle n'avait rien à refuser au roi. Et alors le monarque, avec cette galanterie qui le caractérise, « Je prendrai donc celle qui vous ressemble le plus. » Il prit une rose, n'est-ce pas ? « Oui, ma chère, il l'a mis à sa boutonnière. » Voilà un succès. Madame de Pompadour aura dû être furieusement jalouse. Mais pas du tout. Tu sais bien que la pauvre femme fait le possible et l'impossible pour distraire le roi. C'est elle qui a imaginé de lui donner ces petits spectacles privés. Elle est bien aise de les voir réussir. Le plaisir qu'il y goûte assure le règne de celle qui les lui procure. Si le compliment du roi se fût adressé à une autre qu'à moi, peut-être bien qu'elle en aurait pris quelque ombrage, mais elle sait parfaitement que la comtesse de Lude n'a aucune espèce d'ambition. C'est égal, tu es si belle, et elle l'est aussi. Oui, mais elle ne le sera bientôt plus, dit-on. On prétend que pour le paraître encore, elle emploie bien de l'art. C'est un peu vrai. Le soir, ça va encore, mais le jour. Il est bien sûr que si elle était sage, elle songerait aussi à la retraite. Mais cela ne me regarde pas, et d'ailleurs, tant qu'elle sera comme elle est, à peu près reine, on la trouvera toujours assez belle. On le lui dira, du moins. Et elle le croira, c'est tout ce qu'il faut. Elle était fort aimable ce soir. Quant au roi, je ne l'avais jamais vue d'aussi charmante humeur. Il a fait une loterie pour les dames qui avaient joué dans la pastorale. Quelques-unes ont eu des bijoux magnifiques. Et toi ? Un miroir de Venise. Je l'ai laissé dans mon carrosse. Cela m'a valu encore un mot aimable du roi. Le sort, avec raison, le donne à la plus belle, a-t-il dit. De la bouche du roi, ce compliment vaut plus que le miroir. Peut-être. Cependant, le miroir est très beau. La bordure est d'une rare délicatesse. Demain, il sera sur ma toilette et il aura l'honneur de refléter mes traits. Mais à quoi pensons-nous, Claire ? Bien que tu prétendes que nous n'ayons ni l'une ni l'autre envie de dormir, ce serait plus sage de nous retirer que de continuer à babiller ainsi. Nous avons demain pour jaser d'aujourd'hui. » La comtesse se leva, baisa le joli front de sa nièce et passa dans sa chambre à coucher. Elle s'endormit bientôt sous ses rideaux de soie, tandis que dans le cabinet voisin, Claire veilla longtemps encore pour penser à ces fêtes brillantes qu'elle ne verrait pas et aux grilles qui devaient la séparer du monde.